Ça, parfois, il faut dire stop. Ça suffit. Il faut que je cible telle et telle chose dans ma vie et que je dise à Satan, tu recules. Jésus, tu as des promesses pour moi, je me les accapare et je veux les mettre en pratique dans ma vie. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'était le résumé de la semaine passée. Est-ce que vous avez vos Bibles? Je sais que vous êtes habitué à ce que ça soit projeté, mais si vous avez des préférences avec une version, je vous invite à prendre votre version, car ce matin, on va lire en second. On va lire pas mal de versets. On va voyager. Donc, accrochez-vous. Est-ce que vous êtes concentré? Demande à ton voisin, est-ce que tu es concentré? Et ton voisin, il est censé dire oui. S'il ne dit pas oui, tu le secoues. Tu dis, réveille-toi. Si tu as froid, emballe-toi bien et réveille-toi. Alors, comme je vous dis, c'est de longs passages. Donc, essayez de rester vraiment dedans. On va lire d'abord 2 Samuel, chapitre 6, versets 2 à 12. Alors, pour le contexte, histoire de donner un petit peu de corps à ce passage-là, si vous avez envie de lire à la maison, vous lirez les chapitres précédents. Le roi David a remporté une bataille. Il est content parce que Dieu était avec lui. Dieu lui a parlé, il s'est passé des belles choses. Il sort vraiment de la victoire. Et puis là, on arrive à ce moment-là. Alors, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quelle histoire! Une histoire qui m'a toujours impressionné, qui nous interpelle. On se dit, waouh! Donc David est sur une bonne mouvance. Il sort d'une victoire et il se dit, je vais aller chercher l'arche de l'Éternel qui a été laissée là-bas. Je vais la ramener chez moi. Et voilà, il dit, écoute, eh bien, toi, tu vas venir avec moi. On va prendre un bon 4x4, 4 roues motrices. On va prendre une bonne remorque. Elle est bien lourde. Et on va prendre ça et puis on va la mettre là-dessus. Et puis on y va, on la ramène à la maison. David, c'est un gars, il a de la volonté. Il sait ce qu'il veut. Et puis, c'est parti. Ils partent, ils vont dans cette maison, ils récupèrent l'arche. Tout se passe bien, ils se mettent à louer Dieu, ils acclament l'Éternel, ils sont heureux parce qu'ils ont retrouvé l'arche de l'Alliance. Il y a les louanges, il y a les cris, il y a la détermination. Ils sont motivés, tout le peuple est derrière. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment donné, l'arche est en péril. Elle est en péril et là, Uzza, rempli d'une bonne intention, il se dit « Attention, l'arche va tomber !» Il tend sa main et il dit « Je vais la rattraper » Qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il meurt là, à côté de l'arche. Il meurt là, à côté de la présence de Dieu. Impressionnant. Qu'est-ce qui se passe là? Et David n'est pas content. « Mais attends, Il y a peur, il y a une crainte qui vient au milieu de lui. Attends, Dieu, pourquoi t'as fait ça? On fonctionnait bien ensemble, et puis moi, je veux prendre l'arche, je veux la ramener à un endroit, et finalement, qu'est-ce qui se passe là? David n'est pas content. Alors, on va lire plus loin. 1 Chronique. Chapitre 15, versets 1 à 3. En fait, c'est tout le chapitre, mais on va lire chapitre 15, versets 1 à 3, versets 11 à 13 et versets 25 à 26. Donc, Elia, tu pourras enchaîner. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors, David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël et Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemajéa, Eliel, Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Quelle histoire incroyable! On a le avant, on a le après. Le roi David. Le roi David, c'est pas un rigolo. Comme je vous l'ai dit, vous connaissez son histoire, il arrive, il décide. La première fois, il décide de faire à sa manière. Il dit, maintenant, je vais aller chercher l'arche et ce sera à ma manière. De toute manière, j'ai le droit de le faire, je suis roi. Et puis, c'est tout, c'est comme ça. Il prend 2 gars, il en prend plusieurs, il dit, on va louer le Seigneur, on va chanter. Et puis, c'est très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tragédie. Et ensuite, on lit dans 1 Chronique, qu'est-ce qu'il est dit? David, il va reconnaître son erreur. Il a peur, il entend que finalement, l'arche a été déposée dans la maison d'Obed-Edom. Il faut savoir qu'Obed-Edom était un sacrificateur, un lévite de la tribu. Et puis donc, il a commencé à être béni. Et David, il dit, comment ça se fait que, quand je vais chercher l'arche, moi, il y a un problème, et eux, ils sont bénis. Eh bien, tout simplement, ils sont bénis parce que, vous l'avez lu, David, il s'est souvenu, il s'est rappelé que dans la loi de l'Éternel, les seuls à pouvoir transporter l'arche, c'est la tribu des Lévites. Et donc, l'arche se retrouve dans cette maison, la maison est bénie. Et la première chose que va faire David, c'est qu'il va reconnaître son erreur. Et donc on lit, alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Alors tu vois, là, David, il se dit, j'ai commis une erreur. On va retourner chercher l'arche parce qu'il y a vraiment Dieu avec elle. Il y a vraiment la présence de Dieu. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'en ai besoin, je vais la mettre dans ma cité, je vais préparer les choses. Mais on va faire les choses maintenant non plus à la manière des hommes. La manière des hommes, tu vois, c'est prendre quelqu'un qui n'est pas consacré, prendre quelqu'un qui faire sa petite stratégie, ne rien demander à Dieu, et puis ça, c'est censé être acceptable. Et tout le peuple accepte. Mais la manière de Dieu, c'est quoi? C'est prendre des gens consacrés pour se lier à l'arche et la transporter. Ce n'est pas la même façon. Pourtant, le résultat est le même. L'arche doit aller d'un point A à un point B. Sauf qu'il y a la manière de Dieu et il y a la manière des hommes. Et David a compris que là, il a voulu faire des siennes et ça ne marche pas. C'est catastrophique. On a Uzza qui est là et puis vous voyez, Uzza il est là, il est rempli de bonnes intentions, il obéit à son roi, il se met là et rempli de bonnes intentions, l'arche commence, il tend la main. Et vous savez ce que ça nous rappelle, ça ? Ça nous rappelle qu'on peut marcher à côté de la présence de Dieu sans pour autant être lié à Dieu lui-même. Tu peux marcher, chanter, ça nous rappelle aussi que tu peux louer l'Éternel, tu peux chanter l'Éternel, tu peux te penser être dans sa présence et finalement être complètement à côté de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui se passe dans la première action. Tu peux être rempli de volonté de vouloir faire quelque chose que Dieu a sur son cœur et finalement être à côté du plan de Dieu pour cette mission-là. Moi, ça m'interpelle, hein. Je me dis, Seigneur, combien de fois j'ai voulu faire des choses pour toi ? Est-ce que réellement je les ai fait à ta manière ? Tu peux être comme Usa et marcher à côté de la présence de Dieu. Tu es content, tu es à côté de Dieu. Tu marches. Et pourtant, tu n'es pas dans les plans de Dieu. Je répète, tu peux louer le Seigneur, le chanter, sortir ton instrument, élever le nom de Dieu. Et pourtant, à nouveau, ne pas être dans les plans de Dieu. La chose clé ici à comprendre, c'est qu'il y a ta manière de faire et il y a la manière de Dieu. Demande à ton voisin s'il est toujours concentré. T'es toujours concentré, Josine? Dis à ton voisin, moi je choisis la manière de Dieu. Je ne veux pas tomber mort à côté de la présence de Dieu. J'étais si proche. Et pourtant, j'ai été terrassé. Ah, c'est un peu trop long pour dire ça à ton voisin. Mince alors! Alors on continue. Et on va voir dans ce, si tu peux remettre un chronique, donc on reprend, au verset 12. Donc David appelle les sacrificateurs maintenant, il a compris. Je vais appeler les gens qui sont compétents, qui ont été consacrés, à qui la tâche revient. C'est eux qui doivent porter l'arche pour la ramener dans ma maison. Et il va dire quoi ? Il va dire... « Sanctifiez-vous. » Le thème de ma prédication, c'est « Dieu, fais de moi ton sanctuaire. » La première chose à faire pour que Dieu fasse de toi sa demeure, pour que Dieu fasse de toi son sanctuaire, c'est « Sanctifie-toi. » Sanctifie-toi. Et si vous reliez ça à la semaine passée, il faut que tu comprennes quelles sont les stratégies du malin pour te détourner de la sanctification. De cette capacité à être reconnu juste devant Dieu. Et on ira voir ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Alors David, il va fonctionner différemment. Il va dire, maintenant, je vais préparer les choses. Je vais calmer mon zèle, mon ardeur. Et au verset 1, il dit, il prépara une place à Dieu. Il prépara sa place. Est-ce que tu as préparé dans ton cœur, dans ta vie, réellement une place à Dieu ? Est-ce qu'il y a une place destinée, consacrée à Dieu dans ta vie ? Est-ce que c'est seulement le dimanche matin ? Est-ce que c'est 5 minutes chaque matin ? Est-ce que c'est juste pendant les réunions de prière le mercredi soir ? Est-ce que vous pouvez vous poser beaucoup de questions ? Mais est-ce que dans ma vie, j'ai passé le balai pour consacrer une place à Dieu ? Et comme l'a dit ce matin Sandy, pas la dernière place, pas la place qui reste. Ta réussite personnelle prend 90% de ta vie. Ta famille prend 8%. Et puis les quelques pourcents qui restent, c'est pour Dieu. Peut-être que ta famille prend 90% de ta vie. Et il reste 1% pour Dieu. Peut-être. On fonctionne chacun différemment. On a chacun des priorités. Mais finalement, on comprend que si on veut porter l'arche de l'Alliance, si on veut être porteur de la présence de Dieu, on a besoin que toute notre vie soit consacrée et que les 100% appartiennent à Dieu. Alexis, tu comprends ? Moi, je vais au travail le matin. Et... ici, je parle de ton attitude de cœur. Qu'est-ce qui règne vraiment ? Qu'est-ce qui est vraiment à la première place ? À la manière des hommes, tu marches à côté de Dieu, tu vois, et puis dès qu'il y a une bénédiction, tu essaies d'en bénéficier, tu vois. C'est il est là et puis toi, tu marches à côté. Mais tu n'es pas lié. Sanctifiez-vous. Il y a une question ici pour les Lévites. Lorsqu'ils portaient l'arche de l'Alliance, elle était posée sur leur épaule. Ils étaient attachés à la présence de Dieu. Ils étaient liés à la présence de Dieu tout au long du chemin. Ils n'étaient pas à côté, en marge d'eux, à regarder, à observer. Ah, qu'est-ce qui se passe ici ? Tu sais, à l'église, il faudrait plutôt faire ça comme ça. Dans sa vie à lui, il faudrait faire ça plutôt comme ça. Vous voyez, observateur, spectateur, on devient des experts de la présence de Dieu et pourtant on n'est même pas capable de la saisir. Commence par saisir la présence de Dieu dans ta vie réellement et là, les choses vont changer. Ça marche ? Avec l'assistance de Dieu. Et là, ils ont commencé les réjouissances. Et il nous est dit que ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance. C'était plus facile de mettre l'arche sur des chars. C'était intelligent, tu vois. C'était une bonne stratégie. On va la mettre sur des chars parce que le chemin est peut-être difficile, le chemin est compliqué, mais on prend une arche, on met deux bœufs, on met des bonnes jantes, on met des bonnes pneumatiques et on est parti. Finalement, la solution de Dieu, c'est de la porter sur tes épaules. Tu vois, c'est plus dur, c'est plus compliqué. Et finalement, quand tu prends l'arche de l'Alliance, que tu la poses sur tes épaules, peut-être que c'est lourd, mais à ce moment-là, tu comptes sur Dieu et c'est avec l'assistance de Dieu que tu marches. Que lorsque tu avais mis sur ton bœuf, que tu avais bien préparé les choses, c'était avec l'assistance de ton intelligence, de tes capacités. Mais Dieu n'y est pas là. Et si Dieu n'y est pas là, c'est compliqué. Alors on peut avoir beaucoup de bonnes intentions vis-à-vis de Dieu. Je vous ai rappelé la semaine passée Pierre qui dira « Jésus ne va pas, reste avec nous ». Et Jésus qui va répondre à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Ah, la bonne intention, il s'est pris une claque. Alors soyons animés plutôt que de bonnes intentions. Vraiment de la volonté de Dieu, connaissons ses préceptes. Il faut obéir à la loi que Dieu nous donne. Donc la première chose pour faire de notre vie un sanctuaire, ça va être l'obéissance. L'obéissance est la base des bases des bases. Si tu veux marcher avec la présence de Dieu, si tu veux être porteur de la présence de Dieu, tu vas devoir obéir à ce qu'il te dit, à ses préceptes, avant de faire quoi que ce soit. Josué, plus ou moins 400 ans avant, avait bien compris ça. Josué, chapitre 3, versets 5 à 7. Josué dit au peuple, la même chose que David a dit au sacrificateur, « Sanctifiez-vous, on rigole pas avec Dieu. Dieu a des bons plans pour nous, sauf qu'on s'approche de Dieu dans un certain cadre. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit au sacrifice, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Josué est l'homme de la conquête. Il va passer après Moïse et pour Josué, c'est le temps de conquérir. Et il va écouter les paroles de l'Éternel, il va les mettre en pratique. Et il va dire, sanctifiez-vous, c'est à vous de porter l'arche, passez devant nous, que la présence de Dieu nous devance dans tout ce qu'on va faire. Je ne veux pas devancer Dieu, mais que la présence de Dieu me devance. Josué a compris ça. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Elle m'intéresse cette parole. Moi, j'ai envie de me sanctifier, Seigneur, parce que toi, demain, tu vas faire des prodiges. Moi, je peux faire de grandes choses, je peux réussir, je peux accomplir, je peux avoir de la réussite dans tout ce que je fais, je peux m'engager. Mais avec toi, c'est des prodiges qu'on va chercher. Pas seulement la réussite. Et Josué y a compris. Et si vous lisez ce passage biblique, c'est le moment où il va falloir traverser le Jourdain. C'est le moment où le Jourdain est au plus large. Et il va dire, eh bien, à ce moment-là, vous irez lire, eh bien, il va leur donner cette consigne. Vous marcherez, vous mettrez votre pied avec la présence de Dieu dans les eaux du Jourdain. Et là, les eaux vont s'arrêter et le peuple pourra traverser. Oh là là. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges. Et là, ils ont suivi, ils portaient, ils ont mis les pieds dans l'eau. Et là, le chemin s'est ouvert. Ça paraît plus compliqué, mais finalement, ça devient plus simple. C'est plus compliqué de porter l'arche, mais face à la difficulté, il y a un prodige. C'est gagnant-gagnant, non? Avec le char, je ne sais pas si ça aurait eu le même impact. Il n'y aurait pas eu de conquête pour Josué sans obéissance. Sans obéissance à la parole de Dieu, à ses commandements, la conquête était impossible. Il n'y a pas de réelle réussite avec Dieu sans l'obéissance. Et j'irai plus loin, il n'y a pas de bénédiction. Écoute bien cette phrase. Il n'y a pas de bénédiction avec Dieu sans obéissance. Si tu n'obéis pas à Dieu dans ta vie, tu pourras toujours courir après la bénédiction. La bénédiction dans ta vie viendra de ton obéissance envers Dieu. Je vous rappelle ce verset, 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dira, lui à son tour, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Tu vois, le sacrifice, c'est quand ta femme, elle te dit « Écoute chérie, ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Tu vas prendre sur toi, tu vas faire un sacrifice, tu vas oublier tes plaisirs pour faire quoi ? Pour faire plaisir. » Le sacrifice, c'est quand tu vas vouloir vraiment plaire à quelqu'un et du coup, tu vas faire quelque chose qui te coûte un peu, qui n'est pas dans ton habitude. Et tu, voilà, ça, c'est en ta capacité de faire un certain sacrifice. Mais l'obéissance, c'est autre chose. L'obéissance, c'est compliqué. L'obéissance, c'est se séparer complètement du mal. Chérie, tu sais, quand tu me touches comme ça, j'aime pas ça. Je donne des exemples pour les couples. Ah ben, je vais arrêter complètement. Je me sépare de cette façon de faire. J'abandonne cette façon de faire pour fonctionner différemment. Ce n'est pas juste le sacrifice d'une semaine, deux semaines, je vais te faire plaisir un temps et on recommence. L'obéissance, c'est être libéré du passé. C'est, j'ai fonctionné dans ma vie sur certains principes. Ces principes m'ont amené à tel et tel endroit. Aujourd'hui, je veux faire comme David. Je veux faire demi-tour parce que mes décisions, mes choix, parfois, ce n'est pas terrible. Je veux obéir à Dieu. Dieu me dit que si je fais ça, j'aurai ça. Eh bien, j'abandonne ma façon de fonctionner, ma façon de penser. J'obéis simplement. Je détourne mes yeux du passé. Je ne construis plus sur le passé. Ça veut dire que c'est un nouveau commencement. La parole de Dieu nous parle de nouveauté de vie. Et là, je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais avec l'assistance de Dieu, il y aura des belles choses. Et il y aura la bénédiction dans ma vie, sur ma famille et sur mes biens. Parce que tout ce que j'ai, je l'ai confié à Dieu. Totalement. À 100%. Je ne suis pas dans le sacrifice de venir à l'église. Je ne suis pas dans le sacrifice de venir à la réunion de prière. Je ne suis pas dans le sacrifice de venir ceci, cela. Toute ma vie appartient à Dieu. Et toute ma vie devient une louange à Dieu. Ah là là. Vous voyez, c'est un état de cœur. Tu peux faire, tu peux faire, tu peux faire, tu peux produire pour Dieu. Et Dieu va regarder, il va dire, écoute, tu vois là, tu es à côté de l'arche. Tu fais beaucoup de choses pour moi, mais je ne t'ai pas demandé tout ça. Ce que je t'ai demandé, c'est de porter l'arche, de compter sur moi. Et avec moi, tu vas traverser le Jourdain. Parce que ce que je veux, c'est une relation profonde avec toi. Je veux que tu sois lié, attaché à ma présence. Et bien, c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Que tu sois lié, attaché à la présence de Dieu. Ça marche ? Dis à ton voisin, t'es toujours avec moi ? Alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui, pour toi et pour moi ? On n'a plus de bélier à qui il faut couper la tête ? On n'a plus de sacrifices concrets à faire ? Qu'en est-il pour toi et pour moi? Parce que je vous ai dit la semaine passée, Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que sa volonté pour toi, quand tu lis l'Ancien Testament, tu comprends que cette même volonté s'applique à ma vie. Sauf que les critères, les ont changé. Mais la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu dois, sois dans la volonté de Dieu, que tu suives le chemin. C'est que tu saches dire non au chemin qui t'amène ailleurs, que tu saches dire oui. Donc il faut comprendre quels sont les nouveaux critères. Donc pour nous aujourd'hui, 1 Pierre 2, versets 8 à 10. Vous irez lire le contexte aussi. Alors là, on parle de ceux qui croient à la parole de Dieu et ceux qui n'y croient pas. Donc ça se termine, il vient de parler de ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Et il nous est dit, ceux qui ne croient pas finalement se heurtent au rocher, le rocher qui est Christ pour nous. Ils viennent se heurter contre le rocher. J'ai entendu parler, j'ai compris intellectuellement, mais je ne veux pas entendre cette parole, je ferme les yeux, je vais me heurter à cette vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, ça parle à qui? Ça parle à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui l'ont reçue profondément dans leur cœur, qui se sont attachés à la parole de Dieu, qui ont dit, Seigneur, ok, tu as dit que tu étais mon Seigneur, mon Sauveur, ton sang a coulé, ton sang m'a sanctifié, sanctifiez-vous, j'accepte maintenant d'être reconnu juste, au travers du sacrifice de Jésus, son sang coule encore aujourd'hui sur moi. J'abandonne mes mauvaises voies. C'est ça ce que ça veut dire. Mais vous, au contraire, c'est ça vous. Vous, toi, qui acceptez profondément Christ dans ta vie, qui t'es lié à sa présence. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mon ami, tu es un sacrificateur si tu as accepté Jésus. Tu es de la tribu des Lévi. Tu as la possibilité de porter la présence de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour toi. Tu es maintenant porteur de la présence de Dieu. C'est pas juste un raisonnement, c'est pas juste quelque chose qu'on comprend ou on est d'accord avec. Jésus dira, lorsque tu m'acceptes, je viens faire ma demeure en toi. Moi je viens, je suis en toi, tu es en moi, et puis le Père vient aussi. Et il y a le Saint-Esprit qui vient en prime. Ils arrivent tous les trois. Là c'est le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, tout. Tu es le temple. Fais de moi, Seigneur, ton sanctuaire. Fais de moi ton sanctuaire, Seigneur. Parce que dans ton sanctuaire, il y a la bénédiction divine. C'est pas seulement la réussite, les paillettes. C'est la gloire de Dieu. Et Pierre, Étienne, quand il était à genoux, là, il était en train d'être lapidé. Vous voyez, à la façon des hommes, eh bien, on l'a broyé. Aux yeux de ce monde, c'était, on voulait le tuer. Et lui a dit, pardonne-leur, il voyait la gloire de Dieu. Alors parfois, on va voir ta vie, on va se dire, celui-là, non. Oublie pas que tu es de la maison d'Obed-Edom, que tu as accepté que l'arche de l'Alliance réside dans ta vie. Et il y aura la bénédiction sur toi et sur ta famille. Amen. On va prendre maintenant Apocalypse 1, versets 5 à 6. Alors Jean commence à parler, il nous explique, il parle, d'accord, vous irez lire aussi. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son... C'est Jésus qui te sanctifie, c'est Jésus qui te rend juste devant Dieu. Si tu crois en ça, que tu reçois Christ, c'est la base de l'évangile. C'est pas compliqué. Il faut recevoir simplement Jésus, c'est vrai ? Ben, je suis comme David, c'est vrai, j'ai fait toute ma vie à ma manière. Aujourd'hui, peut-être que je vais essayer de faire à ta manière. Jésus, viens, t'es le sacrifice ultime. Il y avait la nécessité que le sang coule. Jésus, ton sang a coulé. Il m'a libéré. À celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Es-tu conscient, es-tu pleinement conscient que Jésus t'a libéré de tes péchés par son sang? Parce que si ça, c'est pas acquis, c'est pas vécu, tu peux pas aller plus loin. Parce que c'est d'abord sanctifiez-vous. D'abord sanctifiez-vous. D'abord obéissez. Et ensuite, tu pourras traverser le Jourdain. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et qui a fait de nous un royaume de quoi ? Des sacrificateurs. Et tous les jours de ta vie, eh bien, tu es porteur de la gloire et de la présence de Dieu. Alors, on va retenir ce matin que ce qui est le plus important, c'est d'être lié à la présence de Dieu. C'est de porter l'arche de l'Alliance avec tes propres mains. Tu ne peux pas déléguer la vie de Dieu dans ta vie à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu par procuration, par ton mari, ta femme, tes enfants. La vie de Dieu en toi, c'est pleinement, fortement, profondément personnel. Dieu veut que tu mettes tes propres mains, que tu le touches toi personnellement. Tu ne peux pas dire à ma femme, elle va aller prier pour moi. À ma femme, elle va jeûner pour moi. À ma femme, les hommes, ils aiment bien balancer sur la femme, la femme, la femme. On a entendu le pasteur, j'ai oublié son prénom, qui nous a dit, les hommes, vous devez être des lions. Vous devez être des lions. Ça marche. Ah, mon homme, il va aller pour moi. Et la présence de Dieu, c'est à toi de la porter. Tu dois mettre tes mains nues, tu dois la porter à mains nues. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Jésus t'a donné la possibilité d'être dans la présence de Dieu constamment. C'est une vérité. Tu ne peux pas juste garder la présence de Dieu pour toi, la mettre dans un coffre et dire c'est tout, c'est pour moi et puis, je vais piocher quand j'en ai besoin. Tu vois. C'est constant. Ça doit être constamment proche de toi, tous les jours. Alors parfois, comme je vous ai dit, Satan vient et il essaie de nous détourner de la présence de Dieu. Et à chaque fois que tu crois en ces mensonges, à chaque fois que tu fondes ton espérance, tu mets toute ta foi en toi, et ben c'est comme si, oui, tu mettais à nouveau, tu prenais l'arche de l'Alliance, tu la mettais sur un char. Tu dis, je vais y arriver tout seul. Comme David, hein. David, il a réussi, il a fonctionné, il a eu une grande victoire. Et après, il s'est dit, ben, fort de sa réussite, confiant en Dieu, il a fait à sa manière. Il a oublié les préceptes de Dieu. Parfois, on oublie les préceptes de Dieu. On veut faire à notre manière. Je vous ai donné des témoignages la semaine passée. Comment Dieu m'a béni. Je me suis senti béni. Et puis, je me suis senti pousser des ailes. J'ai dit, je vais faire à ma manière. Ben, il n'y avait plus Dieu. Et quand il n'y a plus Dieu, ça ne fonctionne plus d'un coup. Parfois, Satan aussi, c'est nous donner. Hein, c'est nous donner un feu dans nos vies. On a l'impression que c'est Dieu. On a l'impression que c'est incroyable. Et en réalité, il est en train d'alimenter, mettre une bûche dans notre orgueil, notre fierté, notre moi. À chaque fois que tu fais ça, tu déposes l'arche de l'Alliance et tu fonctionnes tout seul. Et tu cries après la bénédiction de Dieu. Mais on veut suivre l'exemple de David et savoir faire demi-tour. Ok, je recule. Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'étais peut-être en colère contre Dieu. J'ai entendu quelqu'un ce matin qui m'a dit, mais tu vois, je passe au travers des situations. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je suis en train de me dire, mais où est Dieu ? Et j'ai dit, fais attention à ce que tu dis. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Où est Dieu ? Donc, quand tout va bien, Dieu est là, ça ne va plus, Dieu n'est plus là, fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Et j'ai dit, on va prier maintenant. On a remis les choses en place, dans la droiture. 4 jours sont passés. Alex, tu sais quoi ? J'ai récupéré ça, ce que Satan il m'a volé. J'ai récupéré ça, ça. Mais je dis, tu vois, ce n'était pas Dieu. C'était Satan qui était en train de s'acharner. C'était les circonstances. Donc, tu ne peux pas en vouloir à Dieu. Tu lui as fait confiance de nouveau. Tu as décidé que ta vie était à nouveau à Christ. Qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu coule. La bénédiction arrive. Et là, tu es content. Ça n'empêche pas les épreuves. Tu vas devoir la porter. Tu vas devoir passer par des lieux difficiles. Mais à un moment donné, Dieu il va parler en ta faveur. Un mot et le Jourdain s'écarte. Ça marche? Dieu, ce matin, te dit « Consacre-toi. Consacre-toi à l'Éternel. Prépare-toi à sa présence. Viens pas les mains dans les poches. Je vais voir, peut-être que... Je viens au culte, peut-être que Sandy, elle sera motivée ce matin. Elle va peut-être réussir à me saisir dans la louange. Ah bah, tu vas pas connaître la présence de Dieu comme ça. Moi, je peux te dire, ce que tu vas connaître, c'est la claque de Dieu. Tu vois? Ah, peut-être ce matin, la prédication, tu comprends. Moi, celui-là, j'aime pas trop. Ah bon? C'est bien, hein? Vous voyez, tout ça, c'est des pensées. C'est pas la présence de Dieu, c'est pas la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas raison, ça veut pas dire. Mais ça veut dire qu'en fait, tu es en train d'alimenter la faiblesse en toi. Il y en a un, il rigole, il dit « Ah, je vais l'avoir comme ça. » Et ça commence dans les pensées. Et bien, comme David, on veut préparer une place dans la maison de l'Éternel. Et ça commence dans nos pensées. « Seigneur, je veux préparer une place pour ta présence dans ma maison, dans mes pensées. Ce matin, je me réveille. » Il y a quelques lourdeurs, il y a quelques trucs. Seigneur, je t'abandonne ces pensées. Je veux pas être bloqué. Tu vois, et tu commences à penser comme ça et tu dis, Seigneur, il faut que ça change. Je vois la bénédiction, je vois ta main sur les autres autour de moi. Ben, moi aussi, je veux la connaître. Je ne veux pas être dans la jalousie, la comparaison. Mais peut-être qu'ils ont pris des décisions, des choix qui attirent ta présence. Et moi, je veux prendre les mêmes décisions. Seigneur, je veux changer mes habitudes parce que toi, tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais des choses nouvelles pour moi. S'il n'y a rien qui bouge, c'est peut-être que je t'ai enfermé dans un coffre. Oh Seigneur, ce matin, tu nous dis que tu nous appartiens, mais qu'on t'appartient. Ce matin, on veut te dire, Jésus, je t'appartiens. Tu as donné ta vie pour nous. Pour moi, tu me rends juste devant Dieu. Tu fais de nous des sacrificateurs. On veut porter ta présence et on veut être capable de traverser le Jourdain avec toi. On ne veut pas essayer de contourner nos problèmes, on ne veut pas essayer d'éviter les choses, mais on veut mettre notre foi en action face aux situations qui sont devant nous. Nous avons des terres à conquérir comme Josué et nous voulons le faire avec ta présence, Jésus. Nous avons des terres à conquérir pour nos enfants dans ce monde qui devient complètement fou, dans l'éducation. Nous avons des terres à conquérir, Seigneur, dans notre couple. Nous avons des terres à conquérir pour l'Église, Seigneur Jésus, pour qu'elle demeure ferme, Seigneur, face à tout ce qu'elle va devoir affronter. Et Seigneur, tu nous dis, consacre-toi, car demain je vais faire des choses merveilleuses. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses merveilleuses dans ta vie ? Moi, je crois que Dieu peut faire des choses merveilleuses dans ta vie. Même si tu as l'impression que ce n'est plus possible, que c'est... Confie-toi en l'Éternel. Obéis à l'Éternel. Reste persévérant. Dieu va faire des choses merveilleuses pour toi. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois ? Ce n'est pas vraiment déterminé, ça. Je n'ai pas entendu des « oui ». J'ai entendu, ouais, peut-être, je vais voir, je vais essayer. Oui, je crois, Bouchy. On va recommencer. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses merveilleuses dans ta vie? Ah, c'est mieux. Alors, je vais te poser une autre question maintenant. Est-ce que tu crois que tu es digne de porter l'arche de l'Alliance. Oui, il t'a choisi. Une race élue, un sacerdoce royal. Si t'es dans ce lieu, c'est parce qu'il t'a choisi. Parce que t'as répondu. Alors on va chanter un chant. Et pendant ce chant-là, j'aimerais vraiment que tu te positionnes sur cette pensée. Seigneur, c'est bien, on a déclaré, c'est bien, il y a les mots. Mais maintenant, je vais faire l'état des lieux. Alors, on peut se lever ensemble, ça va vous réchauffer.